La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Aujourd'hui, nous découvrons l'essai de Bruno David, à l'aube de la sixième extinction, Comment habiter la Terre. Paru en 2021 aux éditions Grasset. Que nous dit la quatrième ? Que Bruno David est président du Muséum national d'histoire naturelle, enfin jusqu'à 2023 je crois, paléontologue et biologiste marin. Bruno David a été chercheur au CNRS et directeur de l'unité biogéosciences. Il tient une chronique quotidienne sur France Culture, Le Monde Vivant. Le réchauffement climatique n'est plus une hypothèse, c'est un fait vérifiable par tous. L'année 2019 fut caniculaire. La banquise arctique a perdu 96% de sa surface en 35 ans. Et chaque année, le niveau des océans monte un peu plus. Mais le climat et ses effets spectaculaires ne sont que la phase visible d'un bouleversement de plus grande ampleur. Au cours de sa longue existence, notre planète a connu plusieurs crises qui, à chaque fois, ont transformé en profondeur le vivant et entraîné l'extinction de la majorité des espèces. Ces crises de la biodiversité avancent masquées par des déclins aussi discrets que redoutables. Aujourd'hui, tout laisse à penser que nous sommes à l'aube d'une sixième extinction qui arrive à une vitesse foudroyante. L'homme et sa consommation sans cesse croissante en sont la première cause. Si rien n'est fait, ce choc aura lieu. Et l'humanité, dont la survie et la prospérité dépendent des écosystèmes, pourrait, elle aussi, être mise à mal. Pouvons-nous encore redresser le tir ? La réponse est entre nos mains. Alors, découvrons l'avant-propos. La science d'aujourd'hui n'est plus celle des XVIIe ou XVIIIe siècles. Une banalité que de constater que si l'honnête homme de ces périodes révolues pouvait prétendre à comprendre les avancées scientifiques de son temps de manière raisonnablement exhaustive, ce n'est plus possible aujourd'hui. Depuis plus de 100 ans, les progrès de la science sont gigantesques. Les domaines explorés se sont multipliés. L'aventure universelle de la connaissance est fabuleuse. Mais, revers de la médaille, plus personne, pas même le plus savant des scientifiques, ne peut se targuer d'être
le pic de la mirandole du 21e siècle.
Le pic de la mirandole du 21e siècle. D'être capable à la fois de comprendre les arcanes de la physique des particules, les mécanismes génétiques et épigénétiques qui fondent le développement d'un organisme, les turbulences des fluides mentéliques ou encore l'évolution de la biodiversité. Conséquence de cet état de fait, les scientifiques doivent se prêter à l'exercice de quitter leur bulle hyper spécialisée pour faire preuve de pédagogie.
Transmettre.
Faire comprendre.
Simplifier sans trahir ni dénaturer.
Ni dénaturer. La nécessité de s'éloigner du matériau d'origine, devenu indigeste pour les non-spécialistes, ouvre la porte à des distorsions, à des interprétations reformulées et récupérées, voire à une remise en cause de la science. Nous le savons bien, le phénomène a pris de l'ampleur avec l'essor fulgurant d'Internet et des réseaux sociaux. La diffusion de la connaissance par tous et vers tous porte en elle un germe pernicieux. Et ce germe pernicieux, c'est celui qui conduirait tout un chacun à revendiquer une équivalence de compétences sur la base d'une égalité en droit et d'une liberté d'accès à ces vecteurs de diffusion. Or, si l'on peut à la rigueur accepter de disposer des avis ou des commentaires de tout un chacun sur tous les sujets au nom d'une légitime liberté d'expression, combien sont pertinents dès lors qu'il s'agit de science ? Comment ne pas être effaré lorsque le président d'un pays démocratique évoque « alternative facts » et « fake news » ? Paradoxalement, au moment où la connaissance devient techniquement la plus aisément partageable, elle est aussi la plus brouillée, dans un bruit de fond envahissant.
Fatras d'opinions qui se veulent toutes équivalentes. Comment ne pas s'y perdre ?
Informations et commentaires ne doivent pas être confondus avec la connaissance scientifique, dont l'élaboration répond à un cahier des charges exigeant.
Connaissance des savoirs antérieurs, démarche rationnelle, réfutabilité.
Un tel cahier des charges engendre des contraintes qui font tout à la fois la faiblesse et la force de la science. La science n'est pas figée et porte en elle la capacité à se remettre en cause. Ce qui, aux yeux de certains, apparaît comme une faiblesse.
La science change d'avis.
Sous-entendu,
elle n'est pas fiable.
Est en réalité une force qui pousse au progrès de la connaissance, à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Des exemples connus sont ceux de la bascule du géocentrisme vers l'héliocentrisme ou de la fixité vers la dérive des continents. Le premier est emblématique de la bataille entre science et religion, bataille qui valut à Galilée de devoir se rétracter et à Giordano Bruno d'être brûlé vif. La confusion entre opinion et connaissance scientifique atteint un paroxysme lorsque les objets de la science font partie de l'ordinaire, du quotidien.
Bien sûr, rien de plus banal qu'une fleur, un arbre, un insecte ou même un oiseau.
Tout le monde sait ce que c'est. Et il devient du moins en apparence très facile d'avoir un avis sur la manière dont fonctionnent les écosystèmes, dont la vie se comporte sur la planète, tout en balayant d'un revers de main la connaissance accumulée depuis des décennies par les biologistes, les écologues, les systématiciens. J'appelle cela une bascule dans l'irrationnel, dans le ressenti, alors que nous avons un besoin crucial de lucidité face aux changements environnementaux qui se dessinent et qui ne pourront être surmontés que par une exigence absolue
de rationalité.
Notre reflet dans le miroir. Chaque jour, nous croisons notre reflet dans le miroir. Et malgré nos efforts, il est difficile de discerner à l'œil nu ce qui différencie notre visage de celui que nous observions la veille. Encore faut-il tomber sur une vieille photographie pour saisir l'ampleur des changements. Pourtant, le processus de vieillissement est bien à l'œuvre et il n'épargne aucun d'entre nous. Il a creusé des rides sur notre front. Il a accentué les marques sous nos yeux. Il a posé sur notre visage le masque indélébile du temps.
Nous avons changé.
Mais comment avons-nous pu passer à côté de ces altérations? Comment avons-nous pu, à ce point, nous aveugler? Ce sont les mêmes questions qui nous assaillent lorsque l'on observe le monde qui nous entoure, le monde vivant.
Ce que l'on appelle aussi la biodiversité.
N'y a-t-il pas moins d'insectes dans nos campagnes?
N'entendons pas moins les oiseaux chanter?
D'année en année, nous nous habituons à avoir un peu moins d'abeilles, de fourmis, à avoir un peu plus chaud, à ce que nos paysages changent. À l'image de notre vieillissement, ce processus est une accumulation de changements imperceptibles qui nous anesthésie. Nous assistons, impassibles, à l'érosion progressive de la biodiversité, la conscience endormie par la supposée lenteur du processus. Mais que l'on ne s'y trompe pas, nous vieillissons et la biodiversité se métamorphose. Nous avons beau cacher notre portrait de Dorian Gray dans le placard, la violence de la révélation n'en sera que plus dramatique. L'imaginaire populaire voudrait qu'une crise soit violente,
immédiate et totalement irréversible.
On a tous en tête le cliché du dinosaure attendant sa dernière heure, le regard hagard, tourné vers une météorite, se précipitant sur la Terre.
Mais les crises ne fonctionnent pas du tout comme cela.
420 millions d'oiseaux ont disparu en Europe. Pourtant, aucune espèce ne s'est éteinte. Ce n'est donc pas une affaire d'extinction, mais de déclin des effectifs, de diminution d'abondance. Je m'explique. De génération en génération, il y a de moins en moins d'œufs pondus, de moins en moins d'œufs couvés de manière correcte, moins d'oisillons qui naissent, donc moins de succès à l'envol, et pour finir, de moins en moins d'oiseaux d'une génération à l'autre.
Voilà comment une crise fonctionne. Un café? Un décroissant tout chaud?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
La Tour Eiffel. Transmettre des messages scientifiques n'est pas toujours simple. Pour y parvenir, j'ai une marotte qui est de passer par le truchement de comparaisons en ayant recours à des analogies parfois éloignées du sujet traité. Et dans cet exercice, je fais régulièrement appel à la tour Eiffel. Un écosystème est un ensemble d'espèces liées les unes aux autres par une multitude de relations de nature diverses, symbiose, mutualiste,
compétition,
parasitisme,
compétition
et prédation. Bien loin des écosystèmes, la tour Eiffel est un ensemble de poutrelles liées les unes aux autres par des rivets ou d'autres poutrelles plus petites. On peut imaginer enlever des rivets ou une poutrelle à la tour Eiffel sans qu'elle s'effondre. On peut imaginer poursuivre en ôtant 2, puis 3, puis 4 poutrelles en faisant sauter des rivets. Du fait de la redondance des reprises de charge, la tour Eiffel va rester en place, du moins jusqu'à un certain point.
Mais à un moment donné, on va enlever la poutrelle de trop et la tour Eiffel va s'effondrer. L'élégante tour va se transformer en un tas de ferrailles éparpillées sur le champ de Mars.
Au strict plan de la matière, on aura toujours les 7300 tonnes de charpente métallique. Simplement, la tour Eiffel aura changé d'état. Ce nouvel état ne rendra pas les mêmes services que ceux que rendait la tour Eiffel auparavant. Télécommunications, tourisme, gastronomie, etc. Il en va de même pour un écosystème. On peut porter atteinte aux effectifs de certaines espèces, ôter des individus rivets, éradiquer complètement une espèce, espèce poutrelle, puis une autre. Des phénomènes de compensation vont se mettre en place, de nouveaux réseaux vont s'installer entre espèces, et l'écosystème va rester à peu près stable.
Une forêt restera une forêt. Un récif de corail restera un récif de corail.
Mais à un moment donné, on va toucher l'espèce de trop. Et l'écosystème va basculer vers un nouvel équilibre, changer d'état. Et ce nouvel état ne rendra pas forcément les mêmes services que ceux que rendait l'écosystème dans son état initial. De plus, contrairement à la tour Eiffel que l'on pourrait reconstruire, le retour à l'état initial risque fort d'être impossible. On peut illustrer cette impossibilité de retour en arrière d'un écosystème par une image, celle d'un paysage miniature, de collines et de vallées, descendant en pente douce vers différents points d'une vaste plaine. Une bille, placée dans une vallée, aboutira en A, B, C ou D, selon la vallée empruntée. Le système est stable et résilient, c'est-à-dire que si je l'agite, la bille va avoir tendance à osciller sur les flancs des collines qui jouxtent sa vallée, puis revenant dans le creux de la vallée, elle terminera sa course à l'endroit prévu. Mais si l'agitation que je provoque dépasse une certaine limite, la bille va franchir la colline et passer dans la vallée d'à côté. Elle pourra même, si la perturbation persiste, franchir une seconde colline et terminer sa course à un endroit totalement différent, un autre point de la plaine. Le dispositif illustre des effets de seuil et le caractère contingent des agitations provoquées, qui, selon qu'elles se produiront à un moment où la bille est le long d'une colline élevée ou basse, se traduiront par un retour à l'équilibre ou un changement de destination. L'avenir qui s'écrira sera complètement différent. Et il est impossible de le prévoir. Nous sommes face à un saut dans l'inconnu.
À l'échelle de notre belle planète bleue.
Merci Lola. Et merci chers auditeurs. J'espère que cette lecture vous aura donné envie de lire le livre de Bruno David. Livre qui sera disponible très certainement à la médiathèque Vaillant dès que je l'aurai rendu, c'est-à-dire très bientôt. Nous vous retrouvons quand vous le souhaitez en podcast sur le site de Radio B ou le mois prochain pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien. Rappelez-vous que souvent, moins c'est mieux. Less is best. On écoute Guy Aydré, le roi des animaux.
Les belles panthères, les poules zigouillent les vers de terre. Les lions massacrent les jolies gazelles, les chats dépouillent les oiseaux de leurs ailes. on tue des agneaux. Les poules trop fastoches, on les bute par 20 dans leur cageot. On tue des hommes, des femmes, des vieux, des enfants à gogo. On peut tuer tout ce qui bouge, alors c'est qui les plus costauds? Les girafes s'empiffrent de feuillage, les vaches engloutissent des pâturages. Les lapins se bourrent de carottes et de choux, et les pandas se goinfrent de bambou. Mais de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin? Mais de tous les animaux, les plus forts c'est nous, c'est les humains. Nous si on veut, on peut vider les océans, couper les arbres et brûler tous les champs. Nous si on veut, on peut même faire fondre les glaciers. On peut dégommer la planète, qu'ils arrêtent de se la raconter. Oui,